Tsuno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Tsuno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous donne aujourd'hui encore rendez-vous à Amsterdam où sont réunis jusqu'à la fin de cette semaine les acteurs de la lutte contre le sida. Une 22e conférence internationale dans un contexte assez paradoxal. Le nombre de décès liés au VIH-Sida est passé sous la barre symbolique du million en atteignant 940 000 morts pour 2017. Baisse liée directement à l'extension de l'accès au traitement et à la réduction des nouvelles infections. C'est vrai, le sida fauche moins de vies, davantage de patients sont pris en charge, mais les objectifs fixés au niveau mondial, eux, sont loin d'être atteints. Et aujourd'hui, un risque de banalisation de la maladie, certains emploient le terme de complaisance, a de quoi inquiéter. Inquiétude face au risque de désengagement financier international dans le contexte mondial de repli. Inquiétude face à la baisse de la vigilance et des occasions manquées pour la prévention. Inquiétude encore face à certaines frilosités politiques qui fragilisent et stigmatisent certaines communautés, ces populations clés privées d'accès aux soins. Un soutien pluriel à la riposte s'impose donc, même si le nerf de la guerre reste l'argent. C'est dire si après ce rendez-vous d'Amsterdam, eh bien la prochaine conférence de reconstitution du Fonds mondial, programmée en France pour l'année prochaine, cette prochaine conférence est attendue par toute la communauté engagée dans la lutte contre le sida. Quels moyens et quel leadership pour lutter contre le sida? Une émission enregistrée à l'occasion de cette 22e conférence de l'IAS à Amsterdam, réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, contribution de la France au Fonds mondial pour renforcer l'impact des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est vous qui l'avez dit, hein, Michel Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Un long chemin reste à parcourir. Titre du dernier rapport de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA avec nous. Avec nous aussi, hein, pour cette émission enregistrée au cœur de la conférence d'Amsterdam, Stéphanie Sédoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la toute nouvelle ambassadrice pour la France, pour la santé mondiale. Et également avec nous, professeur François Dabis, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'ANRS, Agence publique française de recherche sur le sida et les hépatites virales.
Priorité santé sur RFI.
On se retrouve tous les trois autour de cette table pour parler de la mobilisation, de l'impulsion future à donner à la riposte contre le sida. On va avoir l'occasion dans cette émission d'entendre d'autres voix, notamment celle de Peter Sands, hein, le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. D'abord, Michel Sidibé, je voudrais revenir sur un terme que vous avez récemment employé en parlant d'une crise dans la riposte mondiale au sida. Pourquoi, Michel Sidibé, à vos yeux, la situation est-elle aujourd'hui aussi préoccupante?
D'abord, moi, j'aimerais dire quand même que la solidarité globale nous a permis d'atteindre des objectifs très importants. Il faudrait que le monde comprenne qu'il y a quelques années, on ne pensait même pas pouvoir mettre les personnes malades sous traitement. On avait une inquiétude terrible, on ne savait pas quoi faire. Et aujourd'hui, on a 22 millions de personnes sous traitement. C'est un nombre très important qui nous permet aussi d'avoir des impacts multiples, tels que vous l'avez dit, la mortalité baisse, mais aussi on voit qu'on a pu éviter des infections nouvelles chez des enfants, 1,4 million d'infections nouvelles. Mais quand même, nous avons peur parce que nous sommes en face d'une situation nouvelle. Nous devenons victimes de nos résultats. Nous voyons une certaine forme de complaisance, une nouvelle conspiration qui se crée et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous n'atteignons pas les personnes que nous devons atteindre.
Michel Sidibé, vous entendez quoi par conspiration?
Conspiration, c'est que, d'un, on n'arrive pas du tout à avoir les mêmes ressources financières qu'on mobilisait auparavant.
Pourquoi? Parce que justement, ces bons résultats ont fait baisser, on va dire, un niveau global d'inquiétude. Et aujourd'hui, ça n'intéresse plus Les gens...
Je dirais pas que ça n'intéresse plus. Je crois que les gens ne voient plus les gens mourir autour d'eux. Les gens ne pensent plus du tout que cette maladie continue à exister en dehors de leurs frontières. Et malheureusement, nous continuons à avoir 1 800 000 nouvelles infections. Nous voyons pas de baisse vraiment significative dans les nouvelles infections. Donc, nous avons une crise de la prévention. Et donc, il faut que le monde continue à se mobiliser. Et nos modèles montrent par exemple que si nous continuons avec le même niveau d'investissement, on risque de ne pas pouvoir avoir 2,8 millions de personnes supplémentaires chaque année pour nous permettre d'avoir les 30 millions de personnes sous traitement en 2020, ce qui serait terrible parce que si on arrive à atteindre ce nombre et qu'on arrive vraiment à avoir une suppression de la charge virale, on va voir vraiment un impact sérieux au niveau aussi des nouvelles infections.
Est-ce que ça veut dire finalement, Michel Sidibé, que pour atteindre ces nouvelles populations, il faut davantage de ressources que ce qui a été déployé, de ce qui a été mis sur la table pour atteindre une masse de personnes, on va dire la première vague, le dépistage de premier rang, pour après atteindre ces populations qui sont plus difficile justement à rejoindre.
Moi, je crois qu'on a 7 milliards de déficits. Il faut être réaliste. C'est vrai que la solidarité globale a démontré qu'on pouvait mobiliser. On a 20 milliards contre ce combat. C'est des ressources importantes. Mais nous avons 7 milliards de déficits si on veut aller à l'échelle et aller à l'échelle rapidement. Et si on veut vraiment briser, comme je disais, la colonne vertébrale de cette épidémie. Aujourd'hui, les modèles nous montrent très clairement que si nous avons une baisse de 20%, je dis bien de 20%, on aura un impact très sérieux sur au niveau de 44 pays. Les conséquences seront terribles. La plupart de ces pays sont dépendants à 75% de l'aide extérieure. Donc, ce partenariat, cette solidarité, elle est importante.
Et sur des pays en développement, un certain nombre qui sont localisés en Afrique, on va le dire.
Donnons l'exemple, par exemple, du Mozambique. 20% de réduction sur le budget, je dis bien au niveau global, au Mozambique, elle va obliger le Mozambique de doubler son budget total de la santé, et si le Mozambique veut seulement maintenir les personnes qui aujourd'hui sont sous traitement au Mozambique du VIH et s'ils veulent aller à l'échelle avec leur programme de prévention. Donc, une réduction de 20% pourrait complètement remettre en cause et avoir un rebond dans cette épidémie.
Professeur François Dabis, est-ce que vous partagez cette forme d'inquiétude ? Est-ce que vous percevez une forme de relâchement ? Vous avez l'impression que certains ont, en quelque sorte, commencé à baisser la garde ?
Alors d'abord, comme Michel, je voudrais dire que je suis... On a revu en tout début de conférence des images de ce qu'était la conférence de 1992, la dernière fois où nous nous étions réunis à Amsterdam. Et c'est frappant quand même de voir combien de progrès ont été accomplis depuis cette conférence de 1992. La dernière fois que nous nous étions réunis ici, il n'y avait aucun traitement antirétroviral disponible.
C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est de dire, regardez le chemin parcouru. Mais attention à ce qui reste encore à faire.
Absolument. Et quand on parle d'investissement financier, quand on parle de milliards, il faut s'inscrire dans la durée. Et nous avons fixé depuis longtemps, les scientifiques, lorsqu'ils ont modélisé les possibles évolutions de l'épidémie, ils ont fixé les objectifs à 2030. Donc il ne s'agit pas juste de réfléchir à très court terme. On est dans un combat de très longue durée. Et ce n'est que dans la durée qu'on mesurera les effets. Or aujourd'hui, effectivement, on atteint des plateaux. Et ces plateaux nous inquiètent.
Des causes d'inquiétude, grosse inquiétude du côté notamment, c'est ce qu'on entend tous ces derniers jours à Amsterdam, du côté de la prévention, avec notamment ce qui se passe au sein de la nouvelle génération. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on travaille, y compris quand on est chercheur, professeur François Dabis? Comment amener une nouvelle génération à une véritable sensibilisation, ce que disait Michel Sidibé il y a quelques secondes, à une maladie moins visible?
Alors vous avez absolument raison, on a construit nos programmes de prévention, nos modèles de prévention, nos interventions sur des connaissances, sur une génération qui n'est plus la même. Et si je prends l'exemple de la France par exemple, les grandes campagnes de prévention en France ont été construites à partir d'enquêtes sur la sexualité qui avaient été menées il y a 20 ans ou les plus récentes il y a 10 ans. Depuis 10 ans, beaucoup de choses ont changé dans ce domaine et il faut donc probablement qu'on ait des connaissances actualisées pour pouvoir mieux cibler les populations cibles.
On a pu le voir très concrètement ces derniers jours, une publication d'une étude qui montre la hausse des IST, des infections sexuellement transmissibles, dans la jeune génération en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le préservatif, ça ne va plus de soi lors des premières relations, lors de l'entrée dans la vie sexuelle.
Vous avez absolument raison et nous n'avons pas aujourd'hui toutes les informations à notre disposition pour construire les bons dispositifs de prévention. Donc c'est à ça que les chercheurs doivent s'attaquer. Mais on voit qu'on peut déjà aussi faire beaucoup plus de choses avec les moyens qu'on a à notre disposition et qu'on ne met pas à l'échelle.
Alors Stéphanie Sédoux, depuis le mois de mai dernier, vous avez accédé à de nouvelles responsabilités. D'abord, j'aimerais que vous nous définissiez, parce que les auditeurs ne sont pas vraiment habitués à ça, une ambassadrice de la santé mondiale. C'est quoi exactement ?
Ce poste d'ambassadrice pour la santé mondiale a été quelque peu modifié tout récemment. C'était un poste qui existait depuis longtemps, ambassadeur, ambassadrice, en charge du sida, VIH et des maladies transmissibles. D'une certaine façon, c'est la même priorité. Il s'agit de donner une voix et une présence à la France au sein des grandes organisations internationales qui luttent contre les grandes pandémies. Et on y reviendra sûrement, mais la France est un acteur très engagé depuis l'origine de ce combat global contre les pandémies. Et c'est le sens de cette fonction que d'incarner cette présence et cette influence. Aujourd'hui, on a vraiment l'ambition de porter le combat contre les pandémies, dont bien sûr l'épidémie du VIH-Sida, à un niveau d'enjeu global qui justifie cette nouvelle dénomination en faveur de la santé mondiale.
Alors cette globalité, on l'a retrouvée justement dans un appel qui a été formulé avant l'ouverture de cette conférence, avec un certain nombre de personnalités majeures de la lutte contre le sida, qui ont dit, oui bien sûr, on continue cette lutte, ça avait été publié dans The Lancet, Peter Piot, notamment votre prédécesseur à l'ONU Sida, qui a signé donc ce rapport, qui dit, il faut qu'on intègre la lutte contre le sida à une dynamique globale de santé. C'est quelque chose aussi que vous retrouvez justement dans cette nouvelle mission, Stéphanie Sédoux ?
Oui, absolument. C'est l'ambition que porte la France, qui est celle, sans perdre rien, de la nécessaire mobilisation pour lutter contre ces pandémies, mais obtenir que, via ce combat, on obtienne des résultats plus larges, plus durables et qui permettent une amélioration nette de la situation de santé dans les pays d'intervention, dont de très nombreux pays en développement. C'est-à-dire que toutes les fois où on agit pour prévenir, diagnostiquer, traiter une de ces pandémies, on obtienne, là où c'est possible, un résultat qui aille un peu plus loin pour proposer d'autres services de santé, par exemple, aux populations traitées ou à d'autres populations que les populations clés qui sont prioritairement visées par certaines de ces actions.
Alors, une décision qui a été saluée, qui était attendue, saluée unanimement par les acteurs communautaires, par les politiques aussi, c'est ce choix de la France d'accueillir l'année prochaine la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, c'est un petit peu un rendez-vous où les pays ou même des fonds privés donnent des engagements. Et c'est très important parce que c'est en fait la banque de la recherche future, la banque des actions futures. Ça va se passer en France l'année prochaine. Stéphanie Sédoux, vous avez des indications sur plus de détails justement pour cette réunion ? Une date, un lieu ?
La conférence aura lieu en 2019. Elle aura lieu en France. Bientôt seront précisées la date exacte et le lieu exact. Mais ce qui, en revanche, est d'ores et déjà affirmé et acquis, c'est le plein engagement de la France aux côtés du Fonds mondial de lutte contre le VIH, sida, la tuberculose et le paludisme pour faire de cette conférence un succès.
Stéphanie Sédoux, professeur François Dabis, Michel Sidibé, on se retrouve dans quelques instants.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme depuis novembre dernier. Et c'est en France qu'aura lieu la prochaine conférence de reconstitution du fonds. Ce sera l'an prochain. Peter Sands, est-ce qu'il y a aujourd'hui un essoufflement de la mobilisation financière contre le sida ?
Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers le gouvernement français d'accueillir notre conférence de reconstitution des ressources l'an prochain. C'est une preuve fantastique de l'engagement de la France à la santé mondiale. La question que vous posez est celle du niveau de soutien à la lutte contre le VIH. À bien des égards, le VIH a été une grande démonstration de ce qu'on peut faire. Mais il y a encore des obstacles. Si nous voulons vraiment atteindre nos objectifs de développement et venir à bout de l'épidémie d'ici 2030, alors il faudra augmenter nos ressources financières.
Le Fonds mondial finance presque la moitié des traitements disponibles dans le monde aujourd'hui. On sait que l'objectif pour 2020 est à moitié atteint. Est-ce que c'est la dimension financière qui empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif ?
En fait, nous finançons environ 20% de toute l'aide internationale contre le VIH. Notre investissement est plus important dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. L'argent est une partie du problème, mais ce n'est qu'une partie. Je dirais que l'enjeu le plus important, celui qui est indispensable pour gagner la guerre contre le VIH, c'est la volonté politique.
S'il y a une volonté politique efficace, vous avez l'impulsion, l'argent et on peut y arriver.
Pour le dire autrement, est-ce qu'il y a un manque de leadership politique? On connaît la volonté de retrait de l'administration du président Donald Trump, à tous les niveaux d'ailleurs, qu'il soit économique, migratoire, de santé, alors que les États-Unis sont les principaux contributeurs aujourd'hui du fonds. Avec ce retrait, est-ce qu'il y a un manque de leadership?
L'histoire américaine en matière de financement de la lutte contre le VIH est extraordinaire. Il y a le PEPFAR, le plan présidentiel d'urgence contre le sida, et bien sûr le fait que les États-Unis soient le principal contributeur au Fonds mondial. Les États-Unis ont apporté une énorme contribution financière dans le combat pour vaincre l'épidémie. Et nous voyons le soutien permanent des États-Unis dans cette bataille.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des signaux d'alerte? Il y a ces mots de Donald Trump qui annoncent que les États-Unis ne financeront plus autant qu'ils ont pu le faire. Est-ce qu'on doit être inquiet?
Si vous regardez les faits, le soutien américain au Fonds mondial est très fort. Il y a par exemple la décision récente du Sénat autorisant ce niveau de financement jusqu'en 2019. Cela montre sans ambiguïté que les États-Unis comptent bien maintenir leur soutien au Fonds mondial, au moins au niveau actuel, du moins jusqu'au prochain cycle de reconstitution.
Et est-ce que le niveau actuel sera suffisant?
Le niveau actuel de contribution américaine dépasse de loin celui d'aucun autre pays dans le monde. On aimerait avoir plus de donateurs, élargir la base de donateurs du Fonds mondial. Mais en fait, la chose la plus importante en termes de mobilisation des ressources, c'est d'avoir plus de pays qui financent leurs propres efforts et leur propre système de santé de façon plus efficace.
Merci beaucoup, Peter Sands, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Merci.
Thank you very much.
RFI. Le patron du Fonds mondial, Peter Sands, avec Simon Rosé. Alors bien sûr, on a entendu ce terme de leadership au niveau international. On regarde forcément, dans ces cas-là, du côté des États-Unis. On l'a dit, premier contributeur, Stéphanie Seydoux, dans ce classement, la France, aujourd'hui, est deuxième, c'est bien ça?
Oui, la France est deuxième donateur historique au Fonds mondial. Ce sont des montants considérables, 4,2 milliards d'euros depuis la création du fonds et un engagement permanent à plus haut niveau. Je rappelle que c'est le président Chirac qui, à l'époque, avait eu un rôle absolument déterminant dans la création de ce qui s'appelait le Fonds de solidarité thérapeutique international et qui est devenu ensuite le Fonds mondial avec cette intuition extrêmement forte à l'époque qu'il fallait un investissement global, massif, des financements à la hauteur, de manière à ce que les traitements qui existaient seulement à l'époque pour les patients du Nord puissent être utilisés massivement pour soigner les patients du Sud.
Michel Sidibé, on a entendu avec Peter Sands ses inquiétudes formulées sur le financement et au-delà l'attitude américaine. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'administration américaine au sujet de cette riposte au VIH?
Oui, moi je pense que c'est d'abord un mécanisme très complexe. C'est pour ça que c'est pas souvent facile pour les uns et les autres de comprendre l'approche en termes d'allocation budgétaire américaine. Le président de la République décide. Je voudrais une réduction de X% et c'est le Congrès en fin de compte. Moi, j'ai eu la chance d'être au Congrès, d'être au Sénat, de rencontrer la plupart des sénateurs et des personnes qui sont en charge de l'allocation des ressources. Je crois qu'il y a quelque chose qui se dégage quand on parle de la lutte contre le sida. C'est totalement bipartisan. Il n'y a pas une approche où les gens se disent « nous ne voulons pas, nous sommes républicains ou nous sommes démocrates ». J'ai senti avec tous les gouvernements un engagement constant dans cette lutte. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de montrer que nous allons continuer à produire les résultats escomptés. On doit continuer à faire un plaidoyer pour augmenter la base, bien sûr, et diversifier la base de ces contributions parce que il faut pas continuer à penser que les Américains vont payer pour toujours. Que ce soit les Républicains ou que ce soit les démocrates, la question qui me revient chaque fois, pendant combien de temps nous allons payer encore? Donc, il faut qu'on commence à aller vers une augmentation des financements domestiques et c'est ce que nous avons fait. Et l'exemple le plus parlant, c'est comment on a pu convaincre un des grands pays comme l'Afrique du Sud à s'investir. L'Afrique du Sud, elle était dépendante à 90% des ressources provenant du PEPFAR ou du Fonds mondial. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud met 2 milliards de dollars dans la lutte contre cette épidémie. Ils ont l'un des plus grands programme de traitement au monde. Donc, il faut aller vers une réduction de cette dépendance.
Réduction de la dépendance, on va y revenir, mais est-ce qu'on peut dire aussi que cette lutte contre le sida, elle a aujourd'hui encore besoin d'être incarnée par des figures ? C'est peut-être anecdotique. On a vu Elton John à la conférence, prendre la parole, lancer des appels. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tout à l'heure, on parlait de cette visibilité, il y a encore besoin que des personnes publiques prennent véritablement la parole pour dire on compte sur vous, parce qu'on a parlé des politiques, mais on doit aussi parler de la société civile, des populations, et c'est primordial quand on parle de prévention, de dire on compte sur vous, il faut que ça continue, Michel Sidibé, cet investissement des populations.
Moi, je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers les familles, c'est d'aller vers les communautés, c'est de faire en sorte qu'on ait une plus grande démédicalisation et une appropriation de la réponse par les pays. C'est vrai que les figures sont toujours utiles parce que ces figures nous portent des voix, des sans-voix et nous aident certainement à briser cette conspiration du silence lorsque cela est nécessaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller vers les populations. Ce n'est pas de globaliser cette réponse. C'est tout à fait l'opposé. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que l'interface avec les communautés est faible, que nous avons un système de santé qui n'est pas souvent capable d'aller vers la population et leur donner le service. Donc, il nous faut renforcer l'action communautaire. Moi, j'ai peur d'une chose, je vais vous le dire. C'est plutôt une réduction de cet espace démocratique. Et chaque fois que je vois qu'il y a un coup contre tout ce qui peut être démocratique, il y a tout de suite un impact sérieux sur tout ce qui peut être la démocratisation des services, l'espace que nous pouvons donner aux ONG, la société civile. Et sans cet espace-là, on peut avoir toutes les voies qu'on voudra, on risque de ne pas pouvoir atteindre ces populations qui sont laissées pour compte.
Malgré tout, les acteurs de la lutte contre le sida attendent des incarnations et ça s'était ressenti lors de la conférence de Paris. Stéphanie Seydoux, vous n'étiez pas encore ambassadrice. Pour revenir à ce rendez-vous de Paris, on avait beaucoup attendu quelqu'un qui n'était pas venu. Quelqu'un, c'était Emmanuel Macron. Tout à l'heure, on disait la France veut donner des engagements, veut se montrer justement, on va dire, offensive dans cette lutte. Est-ce que on va avoir cette fois-ci Emmanuel Macron pour porter le drapeau de cette lutte?
Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, a bien été au rendez-vous puisque pas plus tard que mai 2018, c'est l'annonce de l'accueil par la France de la prochaine conférence de reconstitution du Fonds mondial. Et cette annonce, ce n'est pas simplement mettre à disposition une grande ville française. C'est naturellement, comme nous le disions tout à l'heure, mettre en avant, avec toute la légitimité de son engagement historique, financier, scientifique et d'action sur le terrain, mettre en avant la mobilisation française, la mobilisation personnelle du président de la République pour faire en sorte que la conférence soit un succès. Donc il y a véritablement là une activation sous l'égide de notre président de la République, une activation de la pleine mobilisation la plus large de tous les acteurs français en vue de cet événement, et ça va venir très vite, fin 2019, ça permet vraiment de galvaniser cette mobilisation, de lui donner un sens.
Sans être cynique, rendez-vous de 2019, peut-être pour rattraper un peu le rendez-vous manqué de 2017, non ?
Je crois que le rendez-vous de 2019 aura une importance qui sera vraiment d'une autre ampleur. Nous parlons ici, c'est normal, nous sommes à Amsterdam, beaucoup du VIH-SIDA, mais encore une fois, je rappelle qu'on a un enjeu qui est bien celui d'atteindre les ressources nécessaires, non seulement bien sûr pour poursuivre, augmenter le combat contre le VIH-SIDA, mais aussi sur la tuberculose et le paludisme, où les enjeux sont également colossaux. Et on voit bien, dans les conditions de succès, si vous me permettez, de la conférence, bien sûr, il faudra avoir atteint une cible financière conséquente qui va être donnée dans les mois qui viennent en estimant quels sont les besoins. Mais il faudra aussi avoir obtenu justement un peu cette transformation de l'outil formidable et très puissant qu'est le Fonds mondial, de façon à avoir un combat qui dépasse la simple prise en charge, et c'est déjà énorme, sanitaire de ces trois pandémies, pour arriver à obtenir que les systèmes de santé dans les pays d'intervention s'orientent autant que possible de manière vertueuse vers des modèles soutenables, durables, et qui permettent, comme le disait Michel Sidibé à l'instant, aux pays de prendre en charge leur propre santé de façon durable, en ayant accès aux ressources durables qui leur permettent d'investir dans leurs propres infrastructures de santé et d'investir dans ce bien qui est pour eux la santé de leur population. C'est ça l'ambition qu'on se donne pour cette conférence de reconstitution.
Alors santé globale, on comprend bien, il y a des enjeux énormes en recherche, en action de terrain, mais aussi ces enjeux justement politiques, choix tributaire des dirigeants du monde. Priorité santé justement donne la parole à une experte des politiques de santé aux États-Unis.
Jennifer Cates, bonjour.
Hello.
Vous êtes la vice-présidente de la Kaiser Family Foundation et au sein de cette ONG américaine spécialiste des politiques de santé, vous êtes la directrice santé mondiale et VIH. Jennifer Cates, où en est aujourd'hui la contribution américaine dans la lutte contre le VIH ?
Aujourd'hui, les États-Unis restent le principal contributeur dans la lutte contre le sida dans le monde. En termes de financement que les États-Unis fournissent aussi bien directement au pays qu'au Fonds mondial, ça représente environ 6 milliards de dollars par année au total. C'est stable, ça n'augmente pas. C'est toujours le contributeur numéro un.
Pourtant, Jennifer Cates, les États-Unis ont annoncé un repli budgétaire qui a été publiquement annoncé et évoqué l'an dernier. Est-ce qu'il s'est concrétisé ?
Vous évoquez les déclarations du nouveau président Donald Trump, un changement de ton très grave au plus haut niveau. Jusque-là, le gouvernement américain était très engagé dans la lutte contre le VIH. Le projet que le nouveau président a proposé au Congrès prévoyait des coupes budgétaires pour des montants significatifs, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Dans l'histoire de la lutte contre le sida, tant du côté des démocrates que des républicains, c'était complètement inattendu. D'un autre côté, cela ne concernait pas seulement le sida, c'était beaucoup plus général. Et notre Congrès, qui joue un rôle majeur, n'a pas approuvé ces coupes. Donc le Congrès les a rejetées. Mais quand on analyse ce qui s'est passé, si ces coupes ne se sont pas concrétisées, le message, lui, est quand même bien passé. Un message au plus haut niveau. Et ça, ça nous a refroidi.
So it did put a little bit of a chilling note out there that didn't materialize into actual cuts.
Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont abandonné ce leadership?
Je pense qu'au jour le jour, aussi bien du côté du PEPFAR, le plan d'urgence de soutien à la lutte contre le sida, que de la contribution américaine au Fonds mondial, les États-Unis conservent leur rôle de leader dans le monde. À travers ces programmes, à travers le travail de l'ambassadrice Deborah Birx, ce qui a changé, à mon avis, c'est cette approche du gouvernement américain. On ne regarde plus le monde de la même façon par rapport à ces 15 dernières années. Depuis que le PEPFAR a été lancé en 2003 par le président George W. Bush, l'approche américaine a toujours été très volontariste. Ça, ça a vraiment changé, dans le sens où le rôle diplomatique a changé, même si le rôle financier, lui, reste le même.
Et comment réagit la société civile américaine à ce changement ?
La société civile américaine s'est battue contre cette évolution. Quand le président a déposé sa première demande de budget après l'élection, il avait demandé plus d'un milliard de coupes. La société civile a réagi en se regroupant avec d'autres organisations, d'autres pays actifs sur ces questions de santé publique et de développement. En coalition, ils se sont adressés aux institutions majeures de la santé publique et du développement. Ils se sont élevés contre ces coupes budgétaires. Leur approche était globale. Ils ont dit tous les programmes comptent. Le Congrès les a écoutés et a rejeté ces coupes. C'est comme ça qu'ils ont réagi, en disant « le leadership américain doit être maintenu ». Les États-Unis sont les plus gros contributeurs dans le monde, et nous avons fait des projections pour voir ce que pourraient impliquer ces coupes. Et même les plus petites d'entre elles pourraient avoir un impact désastreux sur la santé et la vie des gens. Donc je pense que la société civile a été assez efficace en portant ce message.
Est-ce que ce discours américain a un impact sur la recherche américaine contre le VIH ?
Oui, parce que les États-Unis sont les plus gros contributeurs mondiaux à la recherche contre le sida. Les États-Unis et la France d'ailleurs. Ce sont eux les responsables des principales avancées de l'histoire dans la recherche contre le VIH. et il y avait des inquiétudes au sujet de ces coupes de budget. Ce n'est pas encore arrivé et l'Institut national de la santé reste soutenu. Mais le budget n'augmente pas pour faire de nouvelles recherches. Les moyens existants permettent quand même de faire du bon travail. Je pense que le principal message des États-Unis depuis plusieurs années, c'est que les États-Unis en font le plus et que les autres donateurs doivent faire davantage d'efforts. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais je pense aussi que cette nouvelle position américaine est très dangereuse parce qu'il n'est pas certain que quelqu'un prenne le relais s'il y avait des coupes.
C'est très risqué parce que ce n'est pas clair que si les US were to cut, who would be there to step up.
Merci beaucoup, Jennifer Cates, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Kaiser Family Foundation.
Merci.
Et merci encore à Simon Rosé, notre reporter. On se retrouve pour la suite de notre débat à l'occasion de cette émission enregistrée à Amsterdam dans le cadre de la conférence internationale sur le VIH-SIDA. Nos trois invités au micro de RFI, de Priorité Santé, Stéphanie Sédoux, nouvelle ambassadrice pour la France chargée des questions de santé mondiale, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, professeur François Dabis, directeur de l'ANRS. S'est posé cette question, professeur Dabis, des budgets consentis pour la recherche. Question très simple. Aujourd'hui, est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour travailler pour la recherche en France?
La recherche en France est essentiellement effectivement financée par de l'argent public. Bien sûr, il y a aussi un petit peu de financement privé. Il y a quelques fondations notamment qui sont investies. Pas beaucoup de partenariats privés conventionnels, malheureusement. Oui, nous avons des moyens relativement importants et surtout stables. Alors, on a parlé de stabilité tout à l'heure pour la lutte contre le sida en disant que c'était insuffisant. Nous avons la chance de disposer en France de budgets à peu près stables en matière de recherche, qui nous permet de planifier et de programmer sur plusieurs années des véritables programmes. Je ne dirais pas, bien sûr, que nous avons assez, et notamment lorsque l'on compare la situation avec nos collègues américains, on est vraiment à des niveaux extrêmement faibles.
Mais je crois... forcément les mêmes modèles de financement, par contre.
Ni même les mêmes modèles de financement, ni même les mêmes organisations. Et je dois dire que ce qui caractérise certainement la situation de chercheurs en France et peut-être dans d'autres pays en Europe, c'est d'être très efficient avec les moyens qu'on met à notre disposition. Donc nous faisons vraiment le meilleur usage que nous pouvons des moyens qu'on a et ça marche très très bien, ce qui nous permet aussi d'être la deuxième pays en termes de production scientifique et franchement, on n'a vraiment pas à rougir de ce point de vue-là, on a vraiment apporté des contributions majeures sur la scène internationale.
Professeur Dabis, j'imagine que vous avez des retours, y compris du terrain, y compris des acteurs de santé, vous pouvez justement nous citer quelques-unes de ces avancées, quelques-unes de ces contributions qui font qu'aujourd'hui la France... peut-être derrière les États-Unis et deuxième dans ce fameux tableau du leadership. Il y a le leadership politique, le leadership financier et forcément, quand on parle de santé, un leadership de la recherche.
Écoutez, les deux domaines où les choses ont bougé au cours des 3-4 dernières années, c'est d'une part le traitement universel, c'est-à-dire fallait-il ou pas proposer à toute personne vivant avec le VIH d'être traitée dès qu'elle était diagnostiquée. Eh bien, c'est un essai franco-ivoirien mené en Côte d'Ivoire qui a été un de deux essais mondiaux qui ont fait basculer la décision en faveur du traitement universel. Nous venons également de terminer une étude franco-sud-africaine sur l'impact du traitement universel. Hélas, nous avons constaté que nous n'avions pas les effets escomptés. Nous étions à peu près 2 ans en avance après les travaux américains menés avec des collègues en Ouganda et au Kenya qui seront présentés à cette conférence. De la même manière, sur la prévention à l'aide des médicaments, ce que nous appelons la PrEP, les chercheurs français ont apporté une solution nouvelle qui consiste à donner la PrEP à la demande et non pas de manière continue. Ces résultats ont été publiés l'année dernière et bien cette année, cela devient une recommandation dans tous les pays du monde et probablement très bientôt à l'OMS.
Parce que peut-être que, davantage encore que pour les autres pathologies, quand on parle de recherche pour le sida, il y a bien sûr les recherches de molécules, les recherches de médicaments, mais ce qui est essentiel, ce sont ces modèles de prise en charge.
Ce qui caractérise notre organisation de la recherche française à l'ANRS depuis le début, et j'y tiens beaucoup et je le préserve, c'est la multidisciplinarité, c'est-à-dire de faire travailler ensemble des chercheurs qui ont des points de vue, des expertises, des compétences extrêmement différentes, et de les faire travailler lorsque cela est nécessaire avec la société civile. On a maintenant des projets de recherche qui sont copiloté par des chercheurs associatifs. Parce que si on veut travailler sur des solutions de santé publique proches des communautés, comme l'a dit Michel Sidibé tout à l'heure, il faut qu'on travaille avec des chercheurs qui soient totalement dans ce milieu-là. Ce ne sont pas des chercheurs isolés dans le monde académique qui vont trouver nécessairement ces solutions.
Y compris avec des études de terrain comme ces observatoires de santé qui justement vont scruter l'application des politiques pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour optimiser la réaction des organismes tout simplement au traitement reçu.
Oui, tout à fait. Alors, on a par exemple une expérience qu'on vient de relater à cette conférence, qui est l'accompagnement scientifique hein, de l'usage de la PrEP dans la région parisienne. Et nous avons maintenant grandeur nature, un observatoire, comme vous le dites, de l'usage de la PrEP sur les 1500 premières personnes qui ont accepté en routine d'utiliser ces services. Et on a observé zéro contamination. C'est un des premiers exemples qui nous montre qu'on va dans la bonne direction. Et il faut observer, il ne faut pas se contenter de faire des recherches d'amont, trouver quelques solutions et après laisser les choses se faire. Il faut les accompagner et voir si ça marche dans la vie réelle.
Le leadership, il peut être bien sûr au niveau des dépenses, il peut être aussi au niveau de l'application de ces politiques sur le terrain. Michel Sidibé, si je vous demande aujourd'hui un pays du Sud qui donne une figure d'exemple sur ce qu'il faut faire, aussi bien en termes de traitement, d'investissement national que de prise en considération de ces minorités et des populations cibles. Quel nom vous vient à l'esprit comme ça?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs pays en Afrique australe particulièrement, parce que nous avons un pays comme l'Afrique du Sud, comme je le disais, quand on était à Amsterdam il y a quelques années de cela, ça ne nous rajeunit pas, il y a 26 ans pratiquement.
On revient de loin.
On revient de loin. C'était le débat ici, c'était complètement au sujet de l'Afrique du Sud, le déni. On disait que le virus ne transmettait pas le sida.
Mais même y compris au niveau dans l'État, puisqu'on avait entendu une certaine ministre de la Santé qui racontait à peu près n'importe quoi.
À l'époque, c'était incroyable. Donc, on n'avait pratiquement pas d'espoir. Et voir qu'aujourd'hui, ce pays a été capable, bien sûr, de briser cette conspiration du silence. Ce pays a l'un des plus grands programmes de traitement au monde, mais ce pays a une réduction de pratiquement 40% des nouvelles infections. Ce pays est en train d'éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Ce pays a appliqué pratiquement tout ce que François disait, c'est-à-dire dépister, traiter et faire en sorte qu'on puisse avoir une suppression de l'activité du virus dans le sang. Donc, en termes budgétaires, comme je le disais, ils mettent à peu près 2 milliards de dollars. La Namibie, le Swaziland qui est devenu maintenant Eswatini, donc qui aussi montre très clairement que si on combine la prévention et le traitement, on arrive à briser complètement la trajectoire de l'infection. Donc, je crois qu'il y a des pays qui ont vraiment démontré que ce leadership était possible. Et nous voyons des pays aussi en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'augmenter de 400% leur budget alloué au traitement, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est plus possible d'attendre seulement que des ressources provenant de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, c'est 20 milliards de CFA. Il y a des changements qui se produisent et il faut qu'on accompagne ces changements-là.
Justement, un investissement national, hein. On insistait sur ce point tout à l'heure, si certains pays peuvent donner moins ou en tout cas attendre que ces pays directement concernés s'engagent plus sur le plan financier. Il y a un autre aspect qui est plus difficilement quantifiable, Michel Sidibé, c'est la lutte contre les discriminations.
Ah oui, je crois que c'est notre vrai problème, hein, parce que moi je crois qu'on continue à avoir des lois homophobes qui sont inacceptables. On continue à avoir des gens qui se cachent, qui n'ont pas accès aux services, et qui, parce que tout simplement ces personnes ne peuvent même pas, je dis bien, même pas aller vers les services de santé dans certains pays parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, d'être criminalisées, d'être rejetées. Donc je crois que ce travail est important. C'est pour ça que je disais qu'on a une vraie crise au niveau de la prévention, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 47% des nouvelles infections qui se produisent parmi ces populations clés. Que ce soit les travailleuses du sexe, que ce soit les personnes qui s'injectent la drogue, que ce soit les communautés gays ou même les lesbiennes, et je dirais les populations migrantes. Il nous faut nécessairement un nouveau type de leadership. Il nous faut une voie politique. Et cette voie politique, elle est indispensable. Quand je vois aujourd'hui la Russie qui se trouve être le troisième pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections au monde après l'Afrique du Sud et, disons, le Nigeria, la Russie, c'est la porte de l'Europe de l'Ouest. Et je ne peux pas comprendre. Ils ont la science, ils ont les ressources, il y a tout. Mais il faut changer complètement nos formes d'action. En fait, la volonté politique, c'est les choix politiques qui sont mauvais.
Choix de société aussi.
Les choix de société.
Demain, justement, on va consacrer une émission de Priorité Santé spécialement à cette flambée épidémique en Europe orientale et en Asie centrale pour revenir justement à ces politiques répressives, à ces politiques discriminatoires. Question
hautement sensible. Quand on est ambassadrice, forcément, on touche bien sûr à la santé, on touche aussi à la diplomatie. Stéphanie Sédoux, quel rôle peut jouer la France, hein, on le dit souvent, patrie des droits de l'homme, que ce ne soit pas simplement une étiquette, qu'on l'applique aussi sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une réunion, à un ministre russe de la Santé, si tant est que ce soit le ministre de la Santé qui décide quelque chose dans son pays? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces pays qui continuent de réprimer tout en disant il faut lutter contre la maladie? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a tout un plaidoyer qui a d'ailleurs été très clairement exprimé ici même dans cette conférence dont c'était l'une des thématiques, qui démontre à la fois l'efficience des approches qui vont précisément dans une démarche très ouverte vers ces populations clés, et qui aussi démontre l'inefficience, à contrario, de celle des barrières qui existent encore et qui empêchent la prise en charge de ces populations. Donc la démonstration, elle est faite à la fois d'une manière scientifique. Il y a certains traitements qui supposent un accès permanent. Si l'accès au traitement est interrompu parce que la personne est arrêtée, elle est mise en prison, le traitement ne fonctionnera pas. Et dans certains cas, si on est sur la tuberculose, ça va même renforcer la résistance et rendre l'épidémie encore plus difficile à enrayer. On sait que de nombreuses personnes qui sont séropositives ou qui sont atteintes de la maladie sont d'autant plus vulnérables à la tuberculose. Donc on a ce type de preuves scientifiques de ce que les barrières d'ordre politique, la criminalisation et les persécutions dont font l'objet certaines populations, ça rend les traitements inefficients. Et puis, d'une manière un peu plus large en termes de traitement de l'épidémie, c'est évidemment un problème si les personnes qui devraient les premières bénéficier à la fois du dépistage et des traitements ne peuvent pas accéder parce que en allant vers les services qui leur sont proposés, elles se rendent vulnérables à des arrestations. Donc, cette démonstration, elle existe, elle peut être portée. La France, effectivement, est depuis toujours au fond mondial sur des positions extrêmement claires, approche par les droits, approche par les droits humains, attention aux populations clés. Et nous portons une parole particulièrement forte, et nous la porterons évidemment jusqu'à la conférence de reconstitution, pour s'assurer que dans les pays, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, Michel Sidibé a parlé tout à l'heure des succès en Afrique australe, où le taux de prévalence est assez élevé dans la population en général. Mais en Afrique de l'Ouest, on sait que l'épidémie du VIH-Sida aujourd'hui, elle est certes à un niveau moins élevé, si on prend la moyenne générale, mais elle est concentrée sur ces populations clés, qui sont des populations qui, dans certains pays, sont criminalisées et qui sont donc persécutées. Il faut agir. Et là, nous aurons une année entière d'occasion de dialogue pour engager les pays en question à progresser sur une approche qui est une approche d'efficience, mais qui va supposer effectivement qu'on revienne sur certains choix de société, voire sur certaines régulations.
Avant d'aborder notre conclusion, professeur François Dabis, vous vouliez réagir.
Peut-être qu'une diplomatie scientifique peut également aider. Nous, à l'agence, nous avons reçu depuis quelques mois des sollicitations d'universitaires ou d'équipes mixtes avec des associations de certains pays d'Europe de l'Est pour commencer des travaux. Alors, il s'agit dans un premier temps de documenter ce qui se passe plutôt que nécessairement d'intervenir. Mais si, au travers de projets scientifiques, nous pouvons apporter une petite pierre pour faire bouger les lignes, nous le ferons également.
Vous pouvez citer le cas de quel pays ?
Alors, on a des contacts actuellement avec des chercheurs en Russie. C'est assez récent et je ne sais pas si ça sera facile. On a aussi dans d'autres ex-républiques de l'Union soviétique eu récemment des contacts pour savoir si on pouvait les aider à comprendre comment l'épidémie évoluait et surtout qu'est-ce qui se passait dans leur contexte. C'est déjà un premier progrès.
Stéphanie Sédoux, on avait vu Emmanuel Macron, après le retrait américain de l'accord sur le climat, appelé à la mobilisation, prendre une sorte, on peut le dire, sur ce sujet de leadership. Est-ce que aujourd'hui la France est prête à reprendre ce leadership? Et tout à l'heure, vous parliez de cette action contre la pénalisation, contre la criminalisation au Sud. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, on pourrait conditionner aussi une forme d'aide à la lutte concrète contre ces stigmatisations et ces lois qui empêchent chacun, chacune d'accéder à la santé?
Alors, c'est déjà le cas dans le cadre de l'action du Fonds mondial. Le Fonds mondial, dans les programmes qu'il dispense, exige que soit prise en compte, à travers les coordinations locales qui s'appellent les mécanismes de coordination pays, qui rassemblent les acteurs sur place dans chaque pays. Dans ces mécanismes, le Fonds mondial exige que soient représentées les communautés, parmi lesquelles on va retrouver des représentants de ces populations cibles. Dans certains pays, c'était quelque chose de tout à fait inédit. Le Fonds mondial promeut aussi des programmes pour précisément aider et renforcer ces acteurs communautaires pour aller au plus près des populations. Qu'est-ce qu'on appelle les acteurs communautaires ? Mais ce sont les personnes qui viennent de ces groupes, les personnes qui sont des professionnels du sexe et qui savent, qui sont finalement en soi des experts sur la bonne manière d'approcher leurs homologues.
Ce qu'on appelle les pères éducateurs également.
Exactement. Ça fait partie des approches qui peuvent être promues à travers le Fonds mondial et qu'on peut certainement continuer de promouvoir de manière de plus en plus appuyée.
Est-ce que il ne faut pas avant tout, Michel Sidibé, on en a parlé, une véritable réappropriation, au moins un discours qui dise de la part de ces gouvernements, vous nous aidez dans la perspective de cette réunion de reconstitution du Fonds mondial, vous nous aidez, mais nous, on est prêts vraiment à aussi donner les moyens pour la santé des populations de nos pays, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces budgets, eh bien, c'est pas les budgets prioritaires.
Non, moi je crois que, je l'ai souvent mentionné, il faut d'abord que les ministres des Finances comprennent que la santé c'est un investissement, ce n'est pas un coût, ce n'est pas une charge et il faudrait nécessairement les mobiliser. La reconstitution des fonds ne devrait pas être seulement une reconstitution technique, mécanique, où nous amenons des gens qui ont de l'argent, qui sont autour de la table et qui proposent des ressources pour résoudre les problèmes du monde entier. Cette solidarité globale, elle est importante, mais il y a tout un débat sur la responsabilité partagée qu'il faudrait mener au cours de cette reconstitution. Et cette responsabilité partagée, c'est là où on peut amener les leaders pour dire, en termes de gouvernance, en termes de santé, nous sommes prêts aussi à nous engager sur ce schéma avec vous pour faire en sorte que ces mauvaises lois n'existent plus, pour faire en sorte qu'il y ait des politiques de santé publique qui vont permettre aux plus démunis d'avoir accès aux services, que l'exclusion ne devienne plus la réalité du quotidien des plus pauvres, que l'accès aux bons médicaments, comme on en avait discuté la fois dernière, devienne une réalité un peu partout et que le coût soit accessible aux personnes qui en ont besoin. Donc je crois que la reconstitution du fonds sera une opportunité importante pour porter d'autres types de messages et je suis persuadé que la France est certainement le pays le mieux placé pour le faire.
Professeur François Dabis, les chercheurs français, cette fameuse mobilisation pour les grands défis de santé publique, c'est ma dernière question, comment les chercheurs voient cette approche de santé globale intégrer les autres grandes pathologies? On a parlé des maladies infectieuses, mais il y a aussi les maladies chroniques. Est-ce que finalement, on n'a pas un petit peu peur que tout cela soit dilué ou au contraire, que ce soit vraiment une approche d'ensemble pour faire comprendre à l'humanité les bienfaits de cette santé globale?
Je pense que les deux choses doivent être maintenues, c'est-à-dire que nous, dans le champ du VIH-SIDA, et on pourrait dire la même chose pour la tuberculose et le paludisme, on a vraiment du travail encore extrêmement technique, parce que les solutions que l'on a sont loin d'être satisfaisantes. Donc il faut bien sûr qu'on réfléchisse et qu'on travaille sur des solutions scientifiques de qualité, performantes, si possible à bas coût, dans les différents domaines. Mais effectivement, vous demandez aussi aux chercheurs de réfléchir à comment les appliquer à une échelle globale, et les intégrer. Et si nous trouvons d'excellentes solutions et qu'elles doivent être totalement verticales, ça ne marchera jamais. On l'a vu dans de nombreux domaines, hélas, dans le champ du VIH-SIDA. Donc on complique beaucoup la position des chercheurs, mais c'est la vie qu'en est ainsi.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Priorité Santé. Merci à vous, Stéphanie Sédoux, ambassadrice pour la France chargée des questions de santé mondiale. À vous, professeur François Dabis, directeur de la NRS, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, émission enregistré à Amsterdam à l'occasion de cette 22e conférence de lutte contre le sida de l'IAS, réalisée en partenariat avec Expertise France. Et merci à l'équipe de Priorité Santé qui a préparé et fabriqué cette émission ici à Amsterdam. Ophélie Lassen, Simon Rosé, Victor Hull, Didier Bleu à Paris. On se retrouve demain, toujours à Amsterdam, pour ce coup de projecteur sur l'épidémie dans une zone de la planète qui échappe aujourd'hui à la tendance générale. À contre-courant, l'Europe orientale, l'Asie centrale voient le nombre de nouvelles contaminations augmenter de façon alarmante. Discrimination, manque de moyens, nous verrons pourquoi la situation dans cette région est aujourd'hui particulièrement préoccupante. On se donne rendez-vous demain pour cette nouvelle émission de Priorité Santé à Amsterdam. Et vous pouvez réécouter notre émission sur notre site internet rfi.fr, rubrique émission. À demain.
priorité avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.